J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps un article que j'avais écrit en septembre 39, c'est-à-dire au moment de la déclaration de guerre, et où je parlais de Peggy. Ben, je dois vous avouer, cet article m'a fait un peu rougir, tellement j'ai changé d'optique, tellement cet article était naïf. Je voudrais d'abord appeler votre attention sur ceci que je n'avais pas remarqué autrefois, à savoir que lorsque Peggy a disparu en 1914, il était pratiquement inconnu. Dans la troisième partie de des Grands Cimetières sous la Lune, Bernanos écrit ce qui suit, la plupart des Français ignoraient jusqu'à son nom de Peggy lorsqu'il est mort. Mais justement, cette mort glorieuse, puisqu'il est tombé au front le 5 septembre 1914, l'a immensément servi. Et au lendemain de la guerre, chez Gallimard, on a fait une grande édition de luxe, très très belle, de Peggy, avec des préfaces retentissantes. Il y a une préface de Barrès, il y a une préface de Millerand, et on peut dire que c'est dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre 1920, si vous voulez, et 1939, que la gloire de Peggy s'est enfin installée. C'est à ce moment-là qu'a paru des livres comme « Notre cher Peggy » des Tarot, qui a eu un très grand succès, « Le Peggy » de Daniel Rops, un livre intitulé assez curieusement « Sainteté de Peggy » par un nommé Cognam. Mais alors, ce qui a été de plus beau, c'était l'exploitation du nom et de la gloire de Peggy au moment de la Révolution nationale, c'est-à-dire du régime de Vichy. Dans les chantiers de jeunesse, Peggy, c'était le grand homme. Le grand homme des chantiers de jeunesse. Il y avait une publication de luxe, 1942, que j'ai conservée soigneusement, publiée par le ministère de l'Information de Vichy, c'est un nommé Marion qui dirigeait cela. Et parmi les grands hommes que l'intelligence française s'honorait de compter, Peggy était au premier rang. Vous auriez pu remarquer, du reste, ça m'a beaucoup frappé, que Mauriac et que Bernanos étaient absents de cet ouvrage. 1942, parce que Mauriac et Bernanos ne pensaient pas exactement comme le maréchal Pétain, tandis qu'on absorbait, on annexait Peggy. C'est même passé quelque chose d'un peu plus curieux, c'est en 1941, donc pendant l'occupation, pendant le règne de Vichy, qu'on a sorti pour la première fois dans la Pléiade, les œuvres complètes de Peggy. C'était un bon moment. Et puis, le fils aîné de Peggy, né en 98, je crois, qui s'appelle Marcel Peggy, a écrit un livre scandaleux. Oui, j'ai hésité, mais c'est bien le mot, un livre scandaleux, où il explique en 1942 qu'après tout, son père, Charles Peggy, était bien à l'origine du national-socialisme. Ben, il s'est passé depuis la fin de la guerre quelque chose de très curieux, qui est le déclin de Peggy. Il faut le constater. Je l'ai constaté comme professeur autour de mes étudiants, comme quand je les interroge sur leur lecture, ben Peggy ne compte plus. J'ai fait une petite enquête pour savoir également s'il y avait des thèses en cours. On mesure l'actualité d'un écrivain au nombre des thèses qui sont déposées en Sorbonne, enfin sur les grands auteurs. Eh bien, il y a des tas de thèses, des tas vraiment, des quantités de thèses sur Claudel. Il y a pas mal de thèses sur Bernanos et il y en a à peine deux ou trois sur Peggy. Dont on parle le pèlerinage de Chartres. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Hein. Entre les deux guerres, il y avait eu ce mouvement catholique organisé dans les milieux d'intellectuels, surtout catholiques, mais il y avait aussi des employés et des ouvriers, et qui se rendaient chaque année à Chartres à pied, pas tout à fait les 132 km à pied que lui, Peggy, avait fait aller-retour deux années de suite, en 1912 et en 1913, mais enfin, commémorant ce pèlerinage qu'il avait fait lui-même pour aller à la cathédrale de Chartres et pour prier dans la cathédrale, il y avait chaque printemps cette marche, cette longue marche, enfin, de jeunes gens et de jeunes filles qui allaient à Chartres. Vers les années 1930, je ne me trompe pas en vous disant qu'il y avait plus de 25 000 participants. Ben, je me suis informé, et l'année dernière, il y en avait moins de 3 000. Vous voyez quelle chute, enfin, quel extraordinaire déclin. Je suis posé des questions pour savoir enfin, pourquoi il y avait ce déclin. Il y a une réponse qui est certaine. C'est à savoir que ce pèlerinage avait une certaine couleur politique, pas seulement une couleur religieuse. Ça m'a éclairé de lire le livre de Brasillac. Vous avez vu un Brasillac, je suis partout, hein, qui a écrit « Notre avant-guerre ». Ben Brasillac raconte qu'avec ses camarades de Je suis partout, en 1937 et en 1938, il est allé faire le pèlerinage de Chartres parce que Peggy lui paraissait quelqu'un qui correspondait à sa propre pensée. Et il avait bien dit gentiment, Brasillac, sans se rendre compte de ce qu'il écrivait, c'était entre deux voyages, un que j'avais fait chez Franco et l'autre que j'avais fait chez Hitler, que j'étais allé saluer à Chartres la gloire de Peggy. Et cependant, depuis un certain nombre d'années, l'œuvre de Peggy s'est beaucoup agrandie. Je vous avais parlé à propos de Victor Hugo, de tout ce qui était sorti de sa tombe, je vous avais dit on a publié des inédits en masse, mais il a fallu attendre jusqu'en 1952 pour qu'on voit sortir cinq volumes de plus de Peggy. Et puis c'était même pas fini, et en 1970, un monsieur Viard, Jacques Viard je crois, qui a fait une thèse sur Peggy, nous a apporté encore quelques autres inédits. Vraiment maintenant c'est complet, c'est la fin. Ben, malgré tout ça, je vous indiquais que le prestige de Peggy est terriblement tombé. Et pourtant, il y avait des ouvrages qui avaient paru, des ouvrages qui n'étaient pas simplement hagiographiques, vous savez, une biographie de saint, comme autrefois, des ouvrages sérieux, et le plus sérieux avait été celui de Romain Rolland, qui avait bien connu Peggy, en deux volumes, publié juste à la fin de la guerre en 1944. Il serait injuste d'oublier l'ouvrage de M. Bernard Guyon, qui était là, je crois, à ce moment-là, doyen de la faculté des lettres d'Aix-en-Provence, oui, c'est ça, et qui a fait un bon petit Peggy. Il y a un religieux, le révérend Père Pie Dupuy, qui a fait une énorme thèse sur la religion de Peggy. Il y a un historien que tous les écoliers français connaissaient de nom, qui s'appelait Isaac. Isaac et Malet, vous savez, c'était les mêmes les manuels français. Ben, Jules Isaac, qui avait été un camarade de Peggy, a publié, je ne me rappelle plus la date, mais enfin, il y a 5 ou 6 ans, et il est mort tout de suite après, un beau livre sur les souvenirs sur Peggy. Ben, malgré tout ça, et malgré toutes les lettres nouvelles qui sont sorties, une correspondance nouvelle, je vous explique, parce que c'est une constatation que je fais sans m'en réjouir, que le nom de Peggy est considérablement tombé. Là, je voudrais me permettre d'ajouter dans une petite parenthèse, c'est pas pour me glorifier, c'est pour vous indiquer quelque chose, une petite découverte que j'avais faite au moment où Robert Schuman, vous savez, l'ancien ministre, est mort. Robert Schuman avait une collection prodigieuse d'autographes, et quand il est mort et qu'on a vendu ses autographes, j'ai pu examiner cette collection. Et j'y ai fait là une curieuse trouvaille. Monsieur Robert Schuman possédait 5 textes de Peggy. Pas de problème, l'écriture de Peggy est parfaitement reconnaissable, c'était des textes de Peggy. Mais ce n'était pas signé Peggy. Ils étaient signés Laubier, L-A-U-B-I-R, Laubier. Et c'était des textes qui avaient paru sous cette signature de Laubier dans la revue Blanche en 1898 et 99. Et la revue Blanche était une revue de gauche, je dirais presque d'extrême gauche, assez anarchiste même. Ben, c'était une espèce de révélation de savoir que sous le pseudonyme de Laubier, Peggy avait dit un certain nombre de choses du point de vue politique en particulier, et religieux aussi. La première chose que j'ai à vous dire, c'est l'extraordinaire contradiction de cet homme. Et je vais vous en donner une preuve tout de suite, à quel point il est contradictoire. Pendant la guerre, lorsqu'il y avait d'un côté Vichy et de l'autre côté la résistance, ben, savez-vous que des deux côtés, on se réclamait de Peggy. Les gens de Vichy disaient « mais il nous appartient, écoutez », alors on apportait des beaux textes de lui. Les gens de la résistance disaient « mais il nous appartient à nous, écoutez ces beaux textes de lui ». Et c'est parfaitement vrai que les deux textes existaient, des textes antagonistes. Ainsi, les deux parties qui étaient si violemment en lutte se réclamaient du même homme. Ça tient à quoi? Eh bien justement, à ces contradictions. En 1910, il avait donc à ce moment-là 37 ans, Peggy avait publié un texte qui s'appelle « Notre jeunesse ». Et avec une véritable imprudence, vous allez voir, dans ce texte, Peggy se permet d'écrire ceci. On peut commencer demain matin la publication de mes œuvres complètes. Il n'y a pas un mot que j'y changerai, si ce n'est peut-être 4 ou 5 mots, 7 ou 8 mots de théologie qui pourraient donner matière à des malentendus. 4 ou 5 mots, 6 ou 7 mots, théologie, malentendus, faut tout de même inouï. Parce que savez-vous que Peggy, au départ, jusqu'en 1905, s'affirmait comme anti-religieux et même athée. Moi qui suis athée, dit-il. Moi qui récuse complètement le christianisme et le catholicisme. Bon, et bien c'est le même Peggy qui va se présenter bientôt comme un catholique, même je dirais intégriste, quelqu'un qui va foncer contre les modernistes, qui dit « je suis un catholique romain, le plus fidèle des catholiques ». Alors ce même extraordinaire qui puisse dire « j'ai rien à échanger, sinon quelques mots qui pourraient faire des malentendus de théologie ». L'aplomb ne suffit pas, vous savez, pour faire croire à l'auditoire qu'il fait nuit quand le soleil brille. Et bien c'est ce que Peggy a essayé, sur le plan religieux. Maintenant, sur une autre chose, le militarisme. Le petit Peggy, le jeune Peggy, a été extraordinairement, très violemment, antimilitariste. En 1900, il voyait avec la plus grande sympathie un petit journal bien oublié aujourd'hui, mais bien curieux, qui s'appelait Jean-Pierre. Ce journal de Jean-Pierre avait été fondé par Robert Debré, le père de M. Debré, qui a été un grand ministre français, et par la sœur de Maritain. Et ce petit journal Jean-Pierre, c'était destiné aux enfants, aux petits-enfants, pour les empêcher de jouer avec des soldats de plomb, et aussi pour les délivrer d'influence ecclésiastique. Ce journal Jean-Pierre était un journal de gauche et d'extrême-gauche, anti-religieux et anti-militariste. Et Peggy était ravi. Dans sa première Jeanne d'Arc, il y en a deux, vous savez, 97 et 1910, dans la première Jeanne d'Arc, il y a une toute petite chose que je n'ai jamais vu souligner et que je vais vous raconter. Il met en scène Peggy Gilles de Rais. Et vous savez que c'est vrai que Gilles de Rais, l'abominable Gilles de Rais, le tueur d'enfants, avait été un des généraux, on dit à ce moment-là, un des capitaines de l'armée de Jeanne d'Arc, enfin, si on peut dire. Et il va faire tenir un certain langage à Gilles de Rais devant Jeanne d'Arc. On parle de la manière dont il faut s'adresser aux soldats pour les lancer dans les assauts. Et je me suis aperçu que les paroles que Peggy met dans la bouche de Gilles de Rais sont littéralement, vous m'entendez, littéralement, les paroles officielles et historiques que Bonaparte avait prononcées en 97 lorsqu'il avait lancé ses soldats sur l'Italie. Il leur avait dit à ce moment-là, il n'aura pas parlé, vous savez, ni de la patrie, ni de la défense nationale, il leur avait dit, vous avez devant vous cette riche Lombardie, vous avez des tas de pillages à faire, enfin ça sera formidable. C'est ce langage-là qu'il faut parler aux hommes, disait Gilles de Rais. Et savez-vous ce qu'il lui répondait Jeanne d'Arc? Elle lui disait, un homme qui tient un pareil langage à ses soldats, je l'appelle moi le dernier des hommes. Voilà ce que disait Jeanne d'Arc, c'est-à-dire Peggy, contre qui? Pas contre Gilles de Rais, en fait contre Bonaparte. Et bien ce même Peggy qui avait pris cette attitude tellement violente, ce même Peggy qui, dans un texte de 1902, parlant des guerres coloniales, disait « Les guerres coloniales sont les plus lâches des guerres. Pourquoi ? À cause de la différence d'armement. Parce qu'en face de soi, qu'est-ce qu'ils avaient eu, les Français en Algérie ? Ils avaient eu des types qui avaient des pauvres fusils ou des sabres ou des lances, alors qu'eux disposaient de canons. Il appelait ça la lâcheté de la guerre. » Eh bien, ce même Peggy, à partir de 1905-1908, va tellement évoluer qu'il va maintenant être un des glorificateurs de la loi de la gloire militaire. Il avait publié avec sympathie un texte d'Hervé. Vous vous rappelez peut-être Gustave Hervé, c'était le type dont on accusait d'avoir dit qu'il fallait planter le drapeau dans le fumier, enfin c'était d'ailleurs excessif. Gustave Hervé était un antimilitariste. Peggy, dans ses cahiers de la caserne, avait reproduit ce texte d'Hervé sur Wagram. Wagram, le carnage de Wagram. Et bien maintenant, Peggy, oubliant ce qu'il a publié, célèbre à son tour la gloire, l'admirable gloire de Wagram. Il va parler de cette neige impériale, c'est une drôle d'idée, qu'il regarde chaque année sur le dôme des Invalides, comme si la neige sur les Invalides lui faisait penser à la campagne de Russie, et c'était une neige, si j'ose dire, napoléonienne. Ce Peggy, qui avait si mal parlé de Bonaparte, exalte maintenant Napoléon. Et il va aller très loin. Vous vous rappelez, guerre coloniale, les plus lâches des guerres. Et bien en 1911, il va célébrer grandieusement la conquête de la Mauritanie, que les troupes françaises sont en train d'effectuer, parce qu'il a là-bas son ami Sicari. Et il va, en 1911, oui, oser écrire ceci. La paix par le sabre, c'est la seule qui tienne, c'est la seule qui soit digne. Ça veut dire la paix imposée par la violence. Mais il ne se rend pas compte, Peggy, qu'en écrivant une phrase comme celle-là, il s'interdit dorénavant de protester contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine par la Prusse. Si les Prussiens, si les Allemands ont pris à la France l'Alsace-Lorraine, c'est au moyen du sabre. Et maintenant, Peggy déclare, comme ça, carrément, sans réfléchir à ce qu'il dit, que cette paix par le sable, cette paix imposée par la force et par la violence, c'est la seule paix qui soit digne. Là, vous voyez que là aussi, hein, sur le plan religieux d'une part, sur le plan militaire d'autre part, renversement complet de cet homme qui affirme « Moi, je n'ai jamais eu de contradiction ». Il y a pire, et qu'on ne sait pas assez. Peggy avait tenu un rôle réel, courageux, pendant l'affaire Dreyfus. Non pas un premier rôle, comme il le dira plus tard. Qu'est-ce que vous voulez, dans l'affaire Dreyfus, il était un tout jeune homme, il était encore un étudiant. Nous sommes en 98, Peggy n'a encore rien publié, enfin il n'est pas du tout connu. Et qu'est-ce qu'il peut faire? C'est courageusement descendre dans la rue et se battre avec les bandes nationalistes. Bien. En 1910, pour justifier sa conduite de Dreyfusard, il va publier Notre Jeunesse, où il dit « Mais j'ai rien à me reprocher, je suis Dreyfusard et je suis fier d'avoir été Dreyfusard ». Mais très peu de temps avant sa mort, on ne sait pas bien la date, soit 1912, soit 1914, dans un texte qui s'appelle « Clio » et qui n'a été publié que posthume, bien entendu. Peggy revient sur cette affaire Dreyfus et dit oh, « Quand on réfléchit à ce qui s'est passé dans la politique intérieure française, depuis les 10 dernières décennies, par exemple, parce que c'est quand l'affaire Dreyfus y est compris, les décennies, si vous voulez, entre 1870 et 1912 ou 1914, c'est pas produit grand-chose. Hein. À peine quelques petits plis, dit-il, quelques tout petits remous dont nous avons voulu faire des montagnes. Tiens, tiens, tout d'un coup, après nous avoir dit que l'affaire Dreyfus est une affaire élue, une grande affaire mystique, voilà Peggy maintenant qui dit « Oh, bon, après tout, mais non, c'était rien. » Et il va également écrire dans un texte qui a déconcerté son ami Jules Isaac, devant lequel M. Isaac dit « Je n'y comprends rien, je reste dans une espèce de stupeur. » Peggy va dire « Oui, du temps de l'affaire Dreyfus, j'étais un personnage de théâtre et je portais une espèce de masque. » Et voilà trois choses que je viens de vous rappeler. L'une après l'autre, son renversement du point de vue religieux, son renversement du point de vue militaire, son renversement même du point de vue de l'affaire Dreyfus, qui vous montre à quel point le personnage est difficile à approcher. J'ajoute que du point de vue politique pur, il avait été tout à fait d'extrême gauche en 1898-99, 1900 encore si vous voulez, et qui va pratiquement devenir un homme de droite. Si j'ai fait il y a un instant une allusion à cette petite découverte que j'avais faite quand j'ai trouvé des papiers signés Laubier, les papiers qu'il n'avait pas signé de son nom, ben, ils avaient signé Laubier. Vous y voyez en 99 la déclaration que voici à propos de l'enseignement. L'enseignement, devrait être entièrement réservé à un monopole d'État et un monopole laïque. Et moi, Laubier, lisez, moi, Peggy, je demande que soit radicalement interdit l'enseignement des religieux, pas de congréganistes. Pourquoi ? À cause de la liberté de l'enfant, dit-il, on nous parle de la liberté de l'enseignement. Mais la première liberté à respecter, c'est celle du gamin. Et si les jésuites ont le droit d'enseigner, ils violent la liberté de l'enfant, parce qu'ils le rendent difforme. Voilà ce qu'il écrivait en 99. Eh bien, en 1902, Peggy va prendre une position radicalement opposée, qui lui est facile, puisqu'il n'a pas signé autrefois Peggy, mais qu'il a signé Laubier, et qui proteste maintenant contre la politique de Jaurès et contre la politique du père Combe, de M. Combe, vous savez, auquel il reproche injustement et illégitimement de vouloir faire une politique uniquement laïque et un enseignement purement laïque, ce qui n'était pas la pensée de Jaurès. À l'égard de Jaurès, il a été, vous le savez bien, d'une extraordinaire violence. Après l'avoir porté au nu en 1900, il dira plus tard qu'il faudra le tuer. Il dira carrément, il pousse un cri de mort contre lui. Et objectivement, enfin, si on prend les choses telles qu'elles sont, il est certain qu'au moment où Peggy va mourir, en 1914, objectivement, il est du côté de l'extrême droite. J'ai retrouvé, et j'ai publié il n'y a pas longtemps, une lettre d'un ami à lui, qu'il aimait bien, qui s'appelait Pierre Marcel, de son vrai nom Pierre Marcel Lévy. Et en 1914, Pierre Marcel Lévy lui disait, « Écoute Peggy, sois raisonnable, rends-toi compte de ce que tu fais. Moi je te connais, alors je sais très bien que tu n'es pas royaliste, que tu n'es pas avec M. Maurras et avec M. Daudet. Mais si je ne te connaissais pas personnellement, je serais obligé de dire, comme tout le monde, il a écrit ça, hein, Pierre Marcel, je serais obligé de dire, comme tout le monde, que tu fais la politique de l'Action française. Eh bien, pour quelqu'un qui était parti de l'extrême gauche et qui, au moment de mourir, était favorable à la politique d'Action française, vous avouerez que là aussi, il y a une contradiction sérieuse. Hein. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire avec vous? Eh bien, rapidement, je voudrais essayer de la voir, cette trajectoire de Peggy. Il est encore à écrire, vous savez, comme pour... J'avais dit ça, je crois, à propos de Chateaubriand ou de Victor Hugo. Il est encore à écrire le livre sur Peggy. Il y a des amorces, il y a des indications, mais il faudrait faire, et je ne peux pas parce que je suis vieux, il faudrait faire un Peggy pour dire la vérité. Première chose. C'est-à-dire que, même petit garçon, enfin tout de suite, Peggy a un sentiment très vif de sa supériorité. Il a l'impression qu'il dominait absolument les camarades. Vous savez peut-être que sa mère, qui était une pauvre femme, qui était rempailleuse de chaises, mais qui en même temps avait un petit capital puisqu'elle avait acheté des maisons, sa mère avait décidé pour lui qu'il fût instituteur. On l'avait mis à l'école normale, enfin d'Orléans, pour se préparer une carrière d'instituteur. Et M. Naudy, qui était le directeur de cette école, avait repéré le petit Peggy en disant « Mais il a une intelligence exceptionnelle. Non, non, il ne faut pas l'orienter vers l'enseignement primaire. Il est très capable de faire de l'enseignement secondaire et peut-être même de l'enseignement supérieur. » C'était vrai, M. Naudy avait raison, il avait repéré là un gamin qui avait des dons particuliers. Ce petit Peggy s'était beaucoup gonflé de voir qu'il abandonnait ses petits camarades qui devaient devenir instituteurs pour lui faire une belle carrière. C'est le pasteur Bugner qui m'a raconté, il a connu Peggy. Le pasteur Bugner m'a raconté que lorsque Peggy était au lycée d'Orléans, bon, études secondaires, c'était lui qui s'était imposé comme chef de l'équipe sportive. Chef, hein. Il veut toujours être chef. Et quand il entre à l'école normale, il a beau être un conscrit. Vous savez peut-être ce que c'est que ce mot-là. À l'école normale, il y avait un vocabulaire que j'ai connu, moi. Les gens de la première année s'appelaient les conscrits, les gens de la deuxième année s'appelaient les carrés, et les gens de la troisième année s'appelaient les cubes. Eh bien, carré et cube méprisaient un peu les conscrits. À peine est-il entré à l'école normale qu'il s'inscrit au Parti Socialiste, nous sommes dans les 95, et il s'intitule et il s'impose comme chef, lui qui n'est qu'un conscrit, comme chef du Parti Socialiste de l'école normale. Nous savons par un ami à lui, un ami ennemi, vous savez, qui s'appelait Gustave Théry, qui sera plus tard le directeur de l'œuvre, qu'on lui avait donné un surnom à l'école normale, Peggy. On l'appelait Peggy le Corse. Le Corse, pourquoi? Ben parce qu'il était aussi impérieux que le jeune Bonaparte quand il s'était imposé à Paris. Alors, premier point, le sentiment de sa supériorité, hein, volonté de commander, d'être le chef. Deuxièmement, est-ce qu'on ne dit pas assez, que je crois capital, Peggy a le sentiment surtout qu'il a des dons littéraires. Ce qu'il voudrait faire, c'est une grande carrière littéraire. Il a la poésie en lui, c'est vrai, c'est un poète en effet, et il voudrait être reconnu comme poète. Et c'est un homme qui est, un jeune homme, un garçon même, qui est extraordinairement tendu vers la gloire. Il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle dont je rêvais. Un autre point qu'il faut savoir sur le jeune Peggy, et qu'à ma connaissance on ne l'a jamais mis assez en lumière, c'est que ce garçon s'estime écrivain. Il s'estime avant tout poète. Et c'est parfaitement vrai qu'il avait de grands dons de poésie, on le verra assez. Et il était tendu vers la gloire. Vous savez, ce qu'il désire, c'est une grande gloire littéraire. Il parlera plus tard de cette grande inscription temporelle qui avait été sa convoitise. C'est un mot un peu majestueux. Ça veut dire quoi, inscription temporelle? Ben, ça veut dire que dans le concret, dans le présent, dans le temps, enfin dans le monde tel qu'il est, je voudrais que mon nom à moi, mon nom Peggy, soit inscrit, est une inscription éclatante. Alors, dès qu'il est entré à l'école normale, il avait été reçu dans l'année 94, le voilà qui se met à écrire un poème, un récit poétique qui sera Jeanne d'Arc. Vous savez, quand on entre à l'école normale, en principe, quoi, c'est pour être professeur. Alors, au bout de la première année, on passe sa licence, ensuite, ce qu'on appelle aujourd'hui le diplôme, l'étude supérieure, puis après, il y a l'agrégation. Et bien, toute sa première année d'école normale, Peggy va s'occuper d'autre chose que de sa préparation de professeur. Il est vrai qu'il a une année d'avance, car quand il est entré à l'école normale, il s'était déjà fait recevoir à sa licence, si bien que sa première année est, pour ainsi dire, libre. Et il travaille toute sa première année à Jeanne d'Arc. Il veut avoir un congé, parce qu'à la fin de la première année, il n'a fait que rassembler les documents, il n'a pas encore écrit une seule ligne de sa Jeanne d'Arc. Il demande un congé. C'est pas permis. À l'école normale, on ne peut pas avoir de permis de congé. Mais comme il veut quand même avoir un congé et qu'il est débrouillard, il fait semblant qu'il a des difficultés aux yeux. Il persuade le directeur de l'école normale de le laisser aller se reposer à Orléans pour ne pas user ses yeux. Il retourne à Orléans dans une année qui n'est pas une année de congé, mais une année de maladie. Et à Orléans, 95-96, il va continuer, bien avancer cette fois, sa Jeanne d'Arc. Il va la terminer dans l'année 97. Et c'est en 97 qu'il va se passer dans sa vie quelque chose sur quoi il faut que je vous apporte une lumière un peu crue. Voilà la légende. On nous dit, en 97, c'est-à-dire il avait 24 ans, Peggy va brusquement, et d'une manière assez courageuse, je dirais presque assez héroïque, d'après ce qu'on nous raconte, briser sa carrière universitaire. Il ne va pas se présenter à l'agrégation. Il dit non, je ne veux pas faire ça, je veux faire autre chose, je veux me livrer à de la propagande socialiste. À la vérité, voyons, qu'est-ce que c'est le fond des choses? Je vous le répète, quand on rentre à l'école normale, c'est en principe pour être professeur. Mais il y a toujours deux clans, j'ai constaté ça, moi, de mon temps, deux clans à l'école normale. Il y a les braves types qui se disent, bon, ben, je vais être professeur, je vais se préparer à être professeur. Puis il y a les autres qui considèrent l'école normale surtout comme un marchepied pour faire autre chose. Elle n'est intéressante, dira quelqu'un à l'école normale, qu'à condition qu'on en sorte. Ben, Peggy est de ce groupe des habiles, enfin des malins, des adorats, des intelligents, qui se dit, l'école normale, c'est bien intéressant. Pendant 3 ans, j'ai été entretenu, il n'avait pas d'argent. Entretenu aux frais de l'État, je suis logé, je suis nourri par l'État, mais pas question, hein, pas question, que j'aille ensuite m'enterrer dans un lycée de province. Ça commence comme ça, en effet. Quand on est agrégé, pas moyen d'être nommé tout de suite à Paris, on est obligé d'aller ailleurs. Moi, j'ai commencé par Tours. Bon. Et bien, Peggy se dit, moi, Peggy, brillant comme je suis, avec le livre que je suis en train de préparer, ma Jeanne d'Arc, aller faire le pion à Romorantin, au Carpentras, enfin, corriger des copies, ah non, pas pour moi, hein, pas question. Je veux absolument rester à Paris. Parce qu'il n'y a qu'à Paris qu'on peut s'imposer. J'ajoute qu'à ce moment-là, l'affaire Dreyfus allait éclater, il y a des agitations extrêmement grandes, et que Peggy croyait, il nous l'a dit de la manière la plus limpide, dans un de ses inédits publiés en 53, j'étais dans la conviction, un peu naïve, dira-t-il, que la révolution sociale était imminente. J'avais donc deux raisons pour ne pas quitter Paris. Il est vrai que la première, il ne l'a dit pas, mais la deuxième, il nous l'a dit. Ma deuxième raison, c'était de rester là au moment où il y aurait cette révolution parce que je voulais y participer. Mais sa raison profonde, égale à l'autre. Oh, je dis bien qu'en effet, son socialisme était sincère. Mais également, il voulait se faire connaître littérairement. Et c'est pas en corrigeant des copies à Carpentras qu'il arrivait à s'imposer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire au milieu de cette année 97? Il va décider de quitter l'enseignement, de ne pas se présenter à l'agrégation et de se marier. Pourquoi se marier? Il veut se marier avec une fille qu'il connaît, qui s'appelle Charlotte Baudouin, et qui pense exactement comme lui. Elle n'a plus de père, son père est mort, c'était un peintre. Elle est mort depuis un certain nombre d'années, il avait été communard, enfin très favorable à la commune, et les Baudouins avaient de l'argent. Et Charlotte Baudouin, qui pensait comme Charles Peggy, avait dit, ben j'ai une dot de 40 000 francs, et cette dot, je te la donne, disait-elle à son fiancé, et tu en feras ce que tu voudras pour le travail que tu estimes bon. Alors Peggy lui avait dit, bien, on va utiliser les dots, 40 000 francs, ça fait, je ne sais pas, moi, environ 120 000 francs suisses ou francs français, si vous voulez, de valeur actuelle, en valeur d'achat, en pouvoir d'achat. Hein. Et bien, avec ça, je vais fonder une librairie, il sera le directeur de cette librairie, il appellera sa librairie socialiste, elle le sera en effet, mais il a l'intention d'être en même temps son propre éditeur. Il joint donc ces deux tendances, sa tendance socialiste et sa tendance de littérateur, en se disant, en étant moi-même mon éditeur, ça y est, je vais pouvoir lancer mes bouquins. Mais l'affaire Dreyfus prend des proportions si violentes, et la lutte politique est telle que Peggy, qui vient de terminer sa Jeanne d'Arc, estime que c'est tout de même pas le moment d'apparaître comme littérateur, alors que les drames politiques et sociaux sont si vifs, il l'a fait imprimer, une édition de luxe, qui a coûté très cher et qui est très belle, vous savez, avec beaucoup de pages, avec beaucoup de blancs, une typographie admirable, mais il ne la lance pas sur le marché en se disant, on verra plus tard, lorsque la révolution sera accomplie. Et j'appelle votre attention sur un texte bien curieux de Peggy, que l'on ne met jamais en vedette et qu'il faut mettre en vedette, et qui s'appelle « La cité harmonieuse ». Dans « La cité harmonieuse », Peggy décrit comment il la voit, la cité socialiste. Et il y a un paragraphe assez extraordinaire, que j'appellerais aussi un petit peu naïf, mais regardez les yeux de l'homme qui est derrière vous, le Peggy de 24 ans, mais c'est lui qui écrit ça. Et il dit, dans la cité socialiste, il faut que l'artiste bénéficie de conditions particulières. L'artiste ne sera pas assujetti aux devoirs sociaux, au contraire, l'artiste sera, il ne va pas dire le mot entretenu, c'est un mot épouvantable, mais l'artiste n'aura pas à soucier des questions matérielles, c'est l'État qui s'occupera de lui. Là, vous voyez la pensée de ce garçon. Il se dit, bon, c'est vrai, je suis socialiste, mais en même temps, je suis un grand écrivain. Et je désire et j'espère que dans la cité socialiste que nous allons construire, un écrivain comme moi aura une position particulière et privilégiée. Ça ne marche pas, sa librairie socialiste. C'est un effondrement. Peut-être parce que Peggy est imprudent, peut-être parce qu'il ne sait pas gérer les affaires financières. Toujours est-il que parti le 1er mai, une bonne date, hein, le 1er mai 98, parti avec un capital de 40 000 francs, une année après, il avait un déficit de 70 000 francs. Il était au bord de la faillite. Alors, un groupe de camarades, il appellera ça le groupe des cinq, cinq camarades, dont R, H-E-2-R, R, le bibliothécaire de l'école normale qu'il aimait beaucoup, Léon Blum, qui était socialiste et qui avait de l'argent, se constitue en petit comité pour dire on va sauver Peggy, on ne peut pas le laisser tomber dans une pareille faillite. Alors, on va lui redonner de l'argent, on va lui rendre un petit capital, ce sont eux qui payent, c'est les camarades qui payent, un capital de 25 000 francs, et avec ce capital, Peggy pourra repartir. Bon, il repart, mais il n'est plus le maître de l'édition, et ça le rend furieux. Et il ne veut pas être soumis à qui que ce soit. Alors, à la fin de l'année 99, il décide brusquement de lancer une revue qui sera à lui, qu'il appellera les Cahiers de la Quinzaine, et dont il espère qu'elle sera son tremplin pour parvenir enfin à la gloire. C'est le moment aussi où il commence à se séparer du Parti Socialiste, où il va chercher la révolution n'ayant pas eu lieu, où il va chercher toutes sortes de prétextes, d'excuses, de sophismes même, pour accuser les socialistes d'avoir trahi l'esprit des Fusards. Je me demande en quoi. Et il va lancer ses malheureux cahiers, il les lance avec un argent qu'il n'a pas, c'est-à-dire en partant sur des emprunts. La mère de Maritain, Madame Fabre, lui donne de l'argent. Un camarade qui s'appelle Duchesne, un camarade de l'école normale, mais côté scientifique, lui donne de l'argent. Attention, ce camarade lui donne de l'argent parce qu'il prend Peggy pour un anti-catholique. Duchesne était très anti-catholique. Et il y aura des drames plus tard lorsque les cahiers vont s'orienter du côté du catholicisme, mais Duchesne dira, mais j'ai pas donné mes 15 000 francs pour ça, hein. Toujours est-il que Peggy part avec ses cahiers en janvier 1900 en disant « c'est mon moyen de gloire ». Eh bien, pas du tout. Ses cahiers vont tellement peu marcher, il lui fallait à peu près 1200 abonnés pour tourner, comme disait, c'est-à-dire pour ne pas être en déficit. Mais il n'en a jamais 1200 abonnés. La première année, il en a 600. Que ces pauvres cahiers, dont il avait espéré que ça serait ton tremplin vers la gloire, sont en fait pour lui une espèce de glue. C'est un piège dans lequel il est pris. Pour avoir des abonnés, il a faim. Il a fait semblant de continuer à faire du socialisme, et ce n'est pas du socialisme qu'il fait. De plus en plus, il essaye de placer des textes de lui. Et il y a des gens qui se désabonnent en disant « mais on s'est abonné, les instituteurs en particulier, à une revue socialiste et elle cesse de l'être ». Alors Peggy est pris dans un véritable étau. Il n'a pas d'argent, la gloire ne lui vient pas. Il n'a pas les moyens de publier parce que son nom est inconnu et parce que dans ses cahiers, il n'ose pas mettre sa propre littérature. Alors qu'il dit 10 fois, 20 fois ce que je voudrais faire. Hein. Ce sont des drames, ce sont des poèmes, ce sont des dialogues. Il ne le peut pas à cause de sa clientèle. Nous arrivons à l'année 1909, où il a donc 36 ans en 1909. Et où au mois de juin, il pousse un véritable cri de détresse. Vous savez, ça s'appelle « à mes amis et à mes abonnés ».« À nos amis, à nos abonnés ». Où il dit, un homme comme moi, valant ce que je vaux, on ne me donne pas la possibilité de m'exprimer. Mais cette année 1909, une clarté lui vient, un espoir lui vient. Faisant une période militaire, il s'est trouvé à côté de Claude Casimir Perrier, le petit-fils du président de la République. Et ce Claude Casimir Perrier est le mari provisoire d'une actrice qui s'appelle Simone. Cette actrice s'intéresse à la Jeanne d'Arc de Peggy, qui n'a pas connu de lancement. Elle lui dit, je voudrais peut-être monter ça aux fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, on pourrait jouer votre pièce. Peggy se dit, enfin, ça y est, non, on ne jouera pas la pièce, mais l'idée est entrée dans sa tête qu'il y a une possibilité pour lui d'action, de republier ce Jeanne d'Arc en la travestissant. Autrefois, c'était du Jeanne d'Arc socialiste, maintenant, elle aura un autre aspect. Et dans l'année 1910, quand il lance la Jeanne d'Arc, Peggy croit que c'est arrivé et qu'enfin, la gloire va lui venir. Hélas, vous verrez la prochaine fois les désillusions qui seront les siennes. La dernière fois, nous avons laissé Peggy en 1910, qui restera sa grande année parce qu'il a cru que ça y était, son entrée dans la gloire. Je lui ai dit qu'il allait relancer une nouvelle Jeanne d'Arc, un peu époustée, parce que la première était socialiste et il ne s'agit plus maintenant de présenter une Jeanne d'Arc socialiste. Et il voudrait se faire pousser, se faire soutenir, se faire lancer, parce qu'il y a de plus célèbre dans la critique française de l'époque. Ce qu'il y a de plus célèbre, vous savez, c'était, comme d'habitude, du reste, du côté de l'Académie française, c'est-à-dire des bien-pensants. Alors, ce même Peggy, qui, au moment de l'affaire Dreyfus, avait attaqué avec tant de violence un homme comme Barrès, allant même jusqu'à l'appeler Tartuffe, je ne sais pourquoi, et même Tartuffe moisi. Voilà qu'il essaye de se faire présenter à Barrès. Il a un ami qui est apparenté à Barrès qui s'appelle Pellouin, et Pellouin organise un dîner, un déjeuner, ou je ne sais pas, où il y a Peggy qui se trouve en face de Barrès. Et Barrès regarde avec intérêt ce garçon qui vient d'extrême gauche et qui semble avoir fait une évolution satisfaisante. Alors Barrès, qui dans l'écoute Paris écrivait l'article de tête, va faire un admirable article de tête, un véritable article de lancement, vous savez, c'était la catapulte, ça. Un article de tête pour dire aux Français, aux bons lecteurs de l'écoute Paris, enfin à tout ce qu'il y a de correct et de distingué en France, il y a un jeune poète qui vient de surgir et qui s'appelle Charles Péguy. Faites attention, c'est le même moment, 1910 aussi, où Barrès procède à un autre lancement. Lancement de quelqu'un qui deviendra infiniment plus célèbre et qui s'appelle François Mauriac. C'est dans la même année, c'est au même printemps 1910 que Barrès fait ses deux articles, l'un sur Péguy, l'autre sur Mauriac. Mais il y a une différence absolue dans l'intention de Barrès lorsqu'il parle d'une part de Péguy et d'autre part de Mauriac. Je dirais que le lancement qu'il prépare à François Mauriac est un lancement pur, vous allez voir, et l'autre est un lancement impur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand Barrès a découvert les premiers poèmes de Mauriac, il a senti qu'il y avait là une authenticité littéraire. Il se dit, c'est un vrai poète. Alors je vais parler en tant qu'écrivain d'un écrivain que je crois un grand écrivain. Mais quand Barrès parle de Péguy, ce n'est pas l'écrivain qui l'intéresse. Et il le dit clairement. Et même, nous savons par les tarots que Barrès disait, oh, Péguy m'embête un peu, vous savez, quand il me prêche dans sa Jeanne d'Arc, je tire ma montre en attendant qu'il ait fini. Donc sa Jeanne d'Arc n'enthousiasme pas beaucoup. Mais ce qui lui fait infiniment plaisir à Maurice Barrès, c'est que Péguy était autrefois un Dreyfusard. Alors il va dire dans son article, voilà un garçon qui s'est égaré, ou dans sa jeunesse, qui est allé du côté de la gauche et même de l'extrême gauche, mais comme tous les bons petits Français de France, il a gardé souvenir de son catéchisme, et il est revenu maintenant à des bonnes idées. J'appelle ça un lancement impur, car il ne s'agit pas du tout d'un lancement littéraire, il s'agit d'un lancement politique. Un grand journal d'extrême droite qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par Drumont, l'antisémite Drumont, va faire un article de tête également avec banderole, vous savez, enfin avec grand chapeau, la Jeanne d'Arc, d'un ancien Dreyfusard. Vous avez compris, ce qui intéresse ces gens-là, c'est que ce soit un ancien Dreyfusard, c'est que ce soit un transfuge, et on sait bien que les partis politiques aiment les transfuges depuis qu'on a vu le destin d'un monsieur Laval ou d'un monsieur Doriot. Il est accueilli comme tel, comme déserteur. Et bien, ce que j'ai à vous dire maintenant est sympathique. Péguy est bien content d'être lancé, mais en même temps, il a en lui une certaine gêne. Il se rend parfaitement compte que c'est un lancement politique et que c'est un lancement de transfuge, et ça, ça lui déplaît. Alors, en plein milieu de cette année 1910 où il était parti pour la gloire, en plein milieu, au mois de juillet 1910, il va écrire un texte qui s'appelle « Notre jeunesse ». Où il va dire « On parle de moi comme d'un ancien Dreyfusard, mais je suis Dreyfusard. Mes chers amis de droite maintenant, les nationalistes, puisque je suis avec eux, c'est vrai, je suis militariste et nationaliste, je suis très content d'être avec eux sur ce plan-là, mais il y a deux choses qui n'obtiendront jamais de moi, c'est que je ne renierai jamais l'affaire Dreyfus et que je ne renierai jamais la République. » Eh bien, ça va plus. Parce qu'on avait espéré avoir en lui une espèce de supplétif, si vous voulez. Et que tout à coup, il prend la position d'un indépendant. Et comme il dit, pas d'un de ces indépendants qui dépendent. Un indépendant. J'ai mes idées et je les garde. Alors ça ne va plus. C'est plus de jeu. Hein. On lui avait promis, Barrès lui avait promis, de le pousser du côté de l'Académie, de lui faire avoir le grand prix de l'Académie française, grand prix de littérature qui venait d'être créé. Il ne l'aura pas, son grand prix. Va s'organiser autour de Péguy, à partir de cette date, de la fin de l'année 1910, une vraie, le mot est juste, une vraie conspiration du silence. Maintenant que son nom s'est un peu répandu à cause de sa Jeanne d'Arc, il se dit « je peux y aller, je peux publier ces poèmes que j'ai dans la tête depuis si longtemps ». Et il va entasser les œuvres, si vous voulez, peut-être les chefs-d'œuvre. Il va publier son deuxième mystère, son troisième mystère, il va publier les tapisseries de Sainte-Geneviève, les tapisseries de Chartres. Il va aussi écrire Ève, son immense poème d'Ève. Tout ça, chaque fois, tombe dans un trou. J'ai fait la vérification, enfin, j'ai regardé pour voir ce que la presse disait. Il avait quelques amis qui faisaient des petits papiers dans la presse, mais la grande presse, mais les grands journaux, mais les grandes revues ne parlaient pas de lui, parce qu'il avait déçu, parce qu'on avait compté sur lui pour un certain travail politique et qu'il ne voulait pas faire ce travail politique. Alors de son côté, vous voyez une agitation infernale, ce pauvre garçon passe son temps dans des antichambres, monte des escaliers, tire des sonnettes, essaye d'accrocher à sa tentative de gloire les gens les plus contradictoires. On le voit du côté des catholiques et des anticatholiques. On le voit qu'il fréquente Cocteau, oui, qu'il fréquente Cocteau, en même temps que Colette. Il est dans tous les milieux, il se répand en vain. Il court, ce qui est fou, plusieurs lièvres à la fois. Il essaye d'avoir à la fois le Fémina ou le Goncourt. Il rate naturellement tous les deux, comme il avait aussi raté son grand prix de littérature. On le voit qu'il va supplier à un moment Bergson. Il va supplier Bergson de l'aider en lui disant cette phrase. dont il ne mesure pas le ridicule, étant donné l'immense différence qu'il y avait entre la modeste gloire, ou plutôt l'inexistence de Peggy, et la grande gloire de Bergson, il lui dit « Vous manquez à mon jeu, comme je manque au vôtre. Si vous aviez été présent dans mon jeu, je n'aurais pas été bloqué pour le prix de l'Académie. Et si j'avais été présent dans le vôtre, les dévots ne fussent point parvenus à vous harceler, car au début de l'année 1914, il était question de mettre les œuvres de Bergson à l'index. » Je voudrais vous lire une lettre, enfin, un bout de phrase terrible. D'un ami de Peggy s'appelait Louis Gillet, qu'il avait connu à l'école normale. Il avait d'abord bien aimé Gillet, puis en plus, maintenant, Gillet disait qu'il est drôle de garçon, Peggy. Et le 8 juillet 1914, écrivant à Romain Rolland, Gillet écrit ceci: « Ce malade de Peggy est capable de tout. Il est dévoré d'orgueil, d'amertume, glisse à la folie, s'amasse en lui une immense poche de bile. » Le mot est dur, mais c'est vrai que si vous voyez ce que Peggy écrit à ce moment-là, ce sont des choses assez terribles, enfin assez pénibles. Il y a une telle amertume en lui qu'il déchire tout le monde. Ses anciens camarades de l'école normale, qui eux ont fait de belles carrières, des carrières universitaires, il leur en veut. Il appelle ça maintenant le parti des intellectuels, le parti intellectuel. Or, ça ne vous dit rien, mais je vous assure que pour les lecteurs de 1910, ça voulait dire quelque chose, le parti intellectuel. C'était le mot même qu'avaient employé Brunetière et les anti-Dreyfusards pour désigner les Dreyfusards. Et bien voilà Peggy qui prend le langage de la droite. Voilà Peggy qui se déchaîne contre un homme qu'il aurait dû spontanément aimer, qui s'appelait Marc Sangnier, qui était le directeur du Sillon, qui avait le même âge que lui. Ils étaient nés tous les deux en 1873. Mais il se trouvait que Marc Sangnier avait un prestige extraordinaire à cause de sa puissance oratoire, que les foules couraient à ses meetings, tandis que personne ne courait vers les cahiers de Peggy. Alors il avait écrit contre Sangnier des choses abominables, si laides du reste qu'il n'a pas osé les publier, et qu'elles n'ont été publiées que posthumes. Son camarade, Romain Rolland, qui l'avait aidé au départ, et bien, comme il voit que Romain Rolland réussit et que lui ne réussit pas, il dirige contre Romain Rolland un texte dont, pour la seconde fois, il n'osera pas le publier parce que c'est trop affreux, où il dit « Ce personnage a la poitrine creuse, a la gorge tout sautante. » Mais enfin, voyons, Romain Rolland était un tuberculeux. Est-ce qu'on ose s'en prendre à l'attitude physique d'un tuberculeux? Et quand il voit que Romain Rolland obtient ce grand prix de l'Académie française que lui n'a pas pu obtenir, il va déchaîner obliquement, Peggy va déchaîner obliquement contre lui, un petit jeune homme qui s'appelle René Johannet et qui dans une revue va écrire un texte affreux, assez abominable, contre Romain Rolland, un texte où il fait passer Romain Rolland pour un sous Nietzsche, où il dit « Ainsi parlait Romain Rolland », comme vous savez bien Nietzsche, « Ainsi parlait Zarathoustra ». La poche de bile. Écoutez bien ceci, Peggy est un malheureux. Quand on parle de Peggy, il faut avant tout savoir que c'est un homme qui n'a pas été heureux. Si je fais jamais un livre, un petit livre, je ne pourrais pas faire une histoire de Peggy, mais si je fais jamais un petit livre de quelques précisions sur Peggy, j'ai l'intention de l'instituer comme ça. Malheureux Peggy. On nous dit que son enfance a été douce. Bon, son père était mort, il l'avait à peine connu quelques mois après sa naissance, mais il y avait autour de lui, paraît-il, deux femmes très tendres, sa grand-mère et sa mère. Et lui-même, dans un texte qu'il a abandonné, qui s'appelait « Commencement d'une vie bourgeoise », il avait parlé avec tendresse, sa mère et de sa grand-mère. Ça, c'était fictif. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas osé publier son livre. Parce que en juillet 1900, dans un petit coin d'un cahier de la quinzaine de juillet 1900, il a employé un adjectif, un simple adjectif. Il est là, mais il est là terriblement. Ma malheureuse enfance, dit-il. Ben, je sais bien pourquoi, sa malheureuse enfance. Parce que dans un texte de 1913, il va avoir la phrase que voici. Un homme sous, est toujours un spectacle affligeant. Mais une femme saoule est un spectacle qui vous déchire le cœur et qui vous frappe à cette cicatrice où la douleur est intolérable. Comment cicatrice? Cicatrice, ben ça veut dire qu'il avait vu une femme saoule, une femme qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire sa grand-mère. Malheureuse enfance, oui. D'autre part, sa mère elle-même. Sa mère lui en a voulu, moi j'allais dire à mort, terriblement, vous savez, terriblement, d'avoir en 1897 changé de carrière. Elle était tellement contente de penser que ce garçon, ce fils unique, dont elle avait pensé qu'il serait instituteur et qu'il avait fait une si belle course qu'il allait devenir peut-être professeur, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En 97, il abandonne son métier de professeur, il va devenir une espèce de bohème parisien. Et puis qui est-ce qu'il épouse? Il épouse une fille qui n'est pas croyante, la fille d'un communard. Il a dit qu'il ne voulait pas se marier à l'église. Elle était tellement bouleversée, cette mère, que comme elle avait un tempérament plutôt brutal, elle va rompre avec son fils. Et c'est Isaac, Jules Isaac, dans son livre publié il y a quelques années, nous a raconté une chose assez terrible dont il avait été personnellement témoin. Ça se passait rue des Fossés-Saint-Jacques, sur un trottoir de la rue des Fossés-Saint-Jacques, dans l'année 99. 99, Peggy n'est plus un gamin, il est marié, il est même père de famille, enfin il a un petit enfant. Et Jules Isaac a vu sur ce trottoir Madame Peggy, la mère de Peggy, qui giflait deux fois son grand garçon. Lui, naturellement, livide, immobile, enfin quoi, c'est sa mère. Vous voyez ce qu'il a pu subir de ce côté-là. Jusqu'en 1914, jusqu'en 1910, sa mère refusera de voir les petits-enfants. Et en 1998, il avait écrit à un camarade Boivin, je crois, « Ma mère continue à me rendre atrocement malheureux. » Il n'y a pas que ça, il y a ce qui se passe dans le foyer. Tout à l'heure, je vous avais raconté que quand il s'était marié, il avait utilisé les 40 000 francs de la dot de sa femme pour lancer sa librairie, que cette librairie s'était écroulée. Ensuite, il avait voulu lancer les cahiers, il avait fait des emprunts, et les Baudouin, la famille Baudouin, y compris son beau-frère, avaient réuni tout l'argent possible pour l'aider, au point que Mme Baudouin avait vendu des petites terres, des petites propriétés qu'elle avait en Bourgogne. Ben, tout ça était en train de s'engloutir. Alors vous pensez bien que les Baudouin n'étaient pas contents. Ce gendre qu'on avait cru plein de talent et plein d'avenir, ce gendre, c'était la plaie de la famille, quoi. Il avait tout perdu. Alors deux clans s'étaient constitués dans cette triste maison Peggy. Et deux clans bien difficiles à comparer l'un de l'autre, puisque d'un côté il y en avait un, puis de l'autre il y avait tous. Il y avait un Peggy, et puis il y avait le clan Baudouin, c'est-à-dire sa belle-mère, sa femme, le beau-frère, et au départ les enfants. Il est vrai que les enfants ensuite l'aimeront. Mais au départ il s'était produit des choses tellement tristes que je vais vous en donner une preuve. Un visiteur qui nous a raconté ça, qui était venu voir Peggy dans sa petite maison près de Paris, à Palaiseaux. La maison était précédée d'un tout petit jardinet, on poussait une porte de bois et on s'avançait vers la porte d'entrée. Quand le visiteur était arrivé là, il y avait un gamin qui jouait, c'était Marcel, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et Marcel, le visiteur lui tape sur la tête, sur l'épaule, vous savez, enfin, ou sur les joues, comme on fait quand on voit un petit garçon et qu'on lui demande « Comment tu t'appelles ?» pour que le petit donne son prénom. Savez-vous ce que le petit Marcel avait répondu? Il avait répondu « Je m'appelle Marcel Baudouin !» C'était Marcel Peggy, et comme si le nom de Peggy était proscrit dans sa famille même. Alors il y avait le drame du côté de sa mère, il y avait le drame du côté de son foyer, puis il y avait le drame permanent des cahiers. Ces pauvres cahiers de la quinzaine, qui n'arrivaient pas à faire vivre. Ils vivaient d'expédients, ils vivaient à coups d'emprunt, ils avaient essayé de mettre en commandite, ça n'avait pas marché. Et puis il y avait sa gloire qui ne marchait absolument pas. Vous comprenez à quel point cet homme était malheureux. Alors, il faut que je vous dise une phrase qu'il avait écrite, une espèce de phrase prophétique. Il avait écrite en 1900, oui je crois, ou 1901, enfin dans un de ses premiers cahiers. Il s'agissait de ce thème usuel, surtout chez les prédicateurs catholiques, que la souffrance est purificatrice. La souffrance fait du bien à l'être humain. Et puis il dit, oh, ça c'est une vue de prêcheur. J'y crois pas, quant à moi. La souffrance endommage l'homme comme la morve endommage le cheval. Alors quand on pensera au Peggy malheureux, il faut penser que c'est un homme en effet très malheureux et qui a été endommagé par la souffrance. Et je n'ai pas fini. Il s'est passé dans sa vie intérieure entre 1906 et 1908 deux grands drames qui ont l'air contradictoires, vous allez voir. D'une part, Peggy va se convertir, d'autre part, il va entrer dans une passion, dans un amour interdit. La conversion de Peggy, c'est un vrai problème. Et je ne sais pas qui pourra l'étudier. Le révérend père Duployé a publié un très très gros livre intéressant qui s'appelle « La religion de Peggy », mais ce livre n'est fait que d'une étude des pensées religieuses de Peggy d'après son œuvre. Mais le cheminement intérieur qui a amené ce Peggy athée à être un Peggy chrétien, ce cheminement intérieur, je ne le connais pas. Et je ne sais pas si on le connaîtra jamais. Toujours est-il qu'en 1907 d'abord, et en 1908 ensuite, très confidentiellement, et en demandant à l'un et à l'autre, à Maritain d'abord, et à Joseph Flotte ensuite, de se taire, de ne jamais révéler ce qu'il leur dit, il leur annonce, donc depuis mars 1907, je suis redevenu chrétien. Bon, ça pose pour nous un considérable problème, car s'il y a au moins une certitude, c'est celle-ci, Peggy n'a jamais été un catholique pratiquant. Il y a quelque chose d'un peu gênant et presque irritant dans le fait que Peggy va se proclamer en 1911, et publiquement et par écrit, un chrétien romain, super romain, même je vous l'ai dit, antimoderniste. Et ce chrétien si intransigeant ne va pas à l'église. Il ne va jamais à la messe, s'approche jamais des sacrements, c'est pas quelqu'un qui s'est jamais confessé. Ah oui, il y a une question ouverte. Je sais bien que Peggy a donné des explications. Je ne suis pas très sûr des explications. Il a dit, oui, moi je me suis converti, mais ma femme ne veut pas se convertir. Les enfants n'ont pas été baptisés. Alors, est-ce que je peux faire baptiser les enfants à l'insu de ma femme? Elle ne le veut pas. Eh bien, si je ne pratique pas, c'est parce que je vis dans un état condamné, étant donné que je ne me suis pas marié à l'église. Je suis donc, à l'égard, aux yeux de l'église, en état de concubinage. Mais comme je ne veux pas forcer la volonté de ma femme, comme je ne veux pas faire baptiser les enfants et que je ne veux pas faire régulariser mon mariage du point de vue de Rome, eh bien j'en suis réduit, moi chrétien, à vivre en dehors de l'église puisque je vis dans le péché, entre guillemets, étant donné que je ne suis pas marié à l'église. C'est pas. Il aurait dit devant Massis quelque chose que Massis nous rapporte et qui me paraît bien singulier, j'ai bien l'impression que Peggy se moquait de lui. Quand Massis ou Maritain, je me rappelle plus, lui demande enfin pourquoi vous n'allez pas à la messe. Alors Peggy dit parce que je réalise ce que c'est que la messe. La messe, vous savez, ça s'appelle le saint sacrifice de la messe. C'est une commémoration du sacrifice du Christ. Et je vois ça avec une telle intensité que je m'évanouirais. Enfin, je ne peux pas, ça me bouleverserait. Il y a une autre explication qui est peut-être plus intéressante, celle-là, et qui nous a été fournie en 1944 par Romain Rolland. Romain Rolland nous dit, ça s'est passé dans le cabinet de travail de Peggy, enfin, pas cabinet de travail, plus son bureau, le bureau des cahiers. C'était en février 1913. J'avais devant moi, dit Romain Rolland, un Peggy surexcité, très rouge. Quand il s'emportait, cet homme qui avait plutôt le teint jaune devenait tout rouge. Et il s'emportait ce jour-là. Il parlait avec une extraordinaire violence du malheur de sa vie, de son foyer qui ne marchait pas. Et il a dit à Romain Rolland, eh bien, je vais vous dire la vérité, hein. Si je ne me marie pas à l'église, je pourrais y arriver, je pourrais obtenir peut-être une espèce de dispense, ça s'appelle en termes théologiques, sanatio in radice. Ça veut dire qu'on fait bénir son mariage à l'insu même du conjoint s'il ne le veut pas. Je ne veux pas le faire, je ne veux pas me marier à l'église parce que je veux pouvoir divorcer. Et une fois que j'aurai été marié religieusement, moi qui suis catholique, je ne pourrai plus divorcer et me remarier. C'est à cause de ce divorce que je ne veux pas régulariser mes situations religieuses. Il l'a dit. Mais Peggy disait des choses souvent contradictoires. Alors je conclue en vous disant, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas de ceux qui mettent en doute sa sincérité religieuse. Et je sais bien qu'on l'a mise en doute. Georges Sorel, par exemple, c'est un drôle de bonhomme, qui a survécu à Peggy, disait, moi, j'y crois pas à sa conversion. Et son ami Pierre Marcel, dont je vous ai parlé, Pierre Marcel est quelqu'un qui, en 1926, dans le journal L'Œuvre, a dit, quant à moi, je ne me suis jamais aperçu qu'il était catholique, Peggy. Mais ce qui me fait croire à sa sincérité profonde, c'est ceci. Une lettre qu'il écrit pendant qu'il est combattant. Il va mourir sans doute pendant 15 jours, il va être tué. Il écrit à une femme dont je vais vous parler maintenant, une femme qu'il aimait passionnément. Et cette femme était juive. Et dans cette lettre qui n'est certes pas destinée à la publicité, hein, qui est une lettre privée, secrète, il dit à cette fille, si je suis tué, je vous demande de réciter tous les jours ce qui suit. Et il lui écrit en gros caractères, en lettre d'imprimerie. Il lui écrit le Pater Noster et le Salve Regina. Ben, il ne triche pas avec cette fille, hein. S'il lui demande de réciter une prière tous les jours pour lui s'il meurt, c'est bien parce qu'il croit que c'est vrai. En tout cas, il y a aussi une autre chose que je sais, qui va très loin, vous allez le mesurer, à propos de son christianisme, c'est qu'en tout cas, ça ne lui a pas apporté de bonheur. Puisque nous savons que depuis mars 1907, il se déclarait chrétien, puisqu'à la fin de 1908, il disait à son ami Joseph Tolt, en pleurant, paraît-il, « Je suis chrétien », il y a une lettre de lui. Du mois de novembre 1908, qui est une lettre terrifiante. Je la connaissais, je n'avais pas osé la publier. Et c'est mon camarade Bernard Guyon, le doyen d'Aix dont je vous ai parlé, qui dans un bon petit livre sur Peggy, un livre à la collection L'Homme et l'œuvre, je crois, chez Attier, a révélé cette lettre. C'est une lettre qu'il écrit, Peggy, à son ami Pelloin. Pelloin, c'est un très vieux camarade, on ne peut pas dire qu'il fait de l'épate devant lui, vous savez, il lui écrit comme il pense. Et cette lettre est si extraordinaire que Pelloin a mis dans la marge, car je l'ai vu la lettre, ce n'était pas de la littérature, c'était vrai. Qu'est-ce qu'il lui disait Peggy en novembre 1908? Ce Peggy converti, ce Peggy qui depuis un an dit « je suis chrétien ». Il disait à Pelloin, ne t'étonne pas, si tu vois un jour ou l'autre dans les journaux que nous nous sommes tous tués, ma femme, moi et les enfants, comme le suicide de Goebbels, hein, si tu vois dans les journaux un jour que nous nous sommes tous tués, ça ne t'étonnera pas, car le suicide est pour moi une tentation dont je me défends avec un succès sans cesse décroissant. Ce chrétien est donc au bord du suicide. Je voudrais qu'au moins, si vous gardez le moindre souvenir de l'exposé que je vous ai fait, cette image reste en vous, l'image d'un Peggy au bord même du suicide. Et je viens de faire allusion au deuxième drame de sa vie intérieure qui se situe dans les mêmes années que la conversion, à savoir cette passion qu'il a pris pour une femme. Nous savons depuis un certain nombre d'années, 42, 43 je crois, depuis un livre publié aux États-Unis, par la femme de Maritain, Raissa Maritain, qui s'appelle « Les grandes amitiés », nous connaissons ce nom propre. Mais il me semble que je ne suis pas autorisé encore à le prononcer et nous en tiendrons au prénom. Blanche, elle s'appelait Blanche. C'était la sœur d'un camarade de Peggy, qui du reste avait collaboré au cahier. Elle était plus grande que lui. J'ai fait parler sur elle quelqu'un qui la connaissait bien, André Spire, le poète juif André Spire. Il m'a reçu quand il avait plus de 90 ans. Il était d'une lucidité absolue et il m'a dit des tas de choses extraordinaires sur Peggy. C'est lui qui m'a dit oui, je la connaissais bien, Blanche. Elle était plus grande que Peggy. Elle était blonde crépue. Et Peggy était un peu trottinant à côté d'elle. Je crois qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. C'était aussi la vie de Simone, qui connaissait bien Peggy, lui avait fait une sorte de confidence. Et Simone, dans ses souvenirs, nous dit, moi j'ai l'impression que cette femme ne l'aimait pas, Peggy. certaines fois qu'elle ne répondait pas ou faiblement à la ferveur qu'il lui vouait. Ce qu'on peut savoir, c'est que Madame Favre, la mère de Maritain, qui en 1938 nous a donné des souvenirs sur Peggy, a la phrase que voici, cet amour, enfin cette passion de Peggy, c'est un ouragan qui n'a pas cessé de le dévaster. Je ne sais pas si vous connaissez les quatrains de Peggy. C'est probablement ce qu'il a fait de plus important. Et aujourd'hui encore, on n'en parle pas beaucoup. C'est en 1941, donc en pleine guerre, qu'on les a publiés en petits caractères, à la fin de l'édition des œuvres complètes poétiques de Peggy dans la Pléiade, des textes qu'il avait écrits dans l'hiver 1911-1912. Et je ne connais pas, vous savez, je ne connais pas d'écrivain qui se soit flagellé, qui se soit insulté plus terriblement que Peggy ne l'a fait dans ses quatrains. C'est un homme qui est en face de lui-même, enfin devant sa glace, si vous voulez. Il est tout seul, il réfléchit et il se dit des choses. Et voici ce qu'il se dit. « Ô candidat, as-tu assez fait ton jeu? As-tu assez mené ta parade? As-tu assez baisé la croupe de turpitude, tant de fois délateur, ô renégat? Tant de fois failli, ô frauduleux? As-tu assez lâché ton groupe, ô déserteur? » Puis plus loin, il s'appelle cœur souillé, cœur pourri, cœur de bazar, gorgé d'ambition, poche de fiel. Et je me rappelle avoir lu dans une lettre de Louis Gillet à Romain Rolland qui disait qu'il était en train de s'amasser chez Peggy une poche de bile. Ben Peggy ne savait pas qu'on disait ça de lui. Mais lui, quand il s'adressait à lui-même, tout seul et dans le secret de son cabinet, de sa chambre, il s'appelait en effet poche de fiel. As-tu assez de haine dans ton carnier? Il y a cet énorme poème sur lequel il avait voulu finir, enfin sans savoir que c'était sa fin, qui s'appelle Ève, qui est monumental, qui est très souvent ennuyeux, avec de très belles pages. Et ben dans Ève, il y a ceci, ces retournements qui reviennent au même. L'homme, il aime à se payer de mots. L'être qui joue et qui ment quand il dit qu'il se donne. Hier, j'étais une fontaine, dit Peggy, et maintenant, je suis quoi? De la vase, un bourbier, un marais. La vie, écrit-il encore, toujours dans F, c'est une perpétuelle souillure, une constante flétrissure. On descend tout le temps. Dans les quelques lettres que nous avons lues à cette Madame Favre, que je nommais il y a un instant, il y en a une, écrite 2 ans avant sa mort, qui est saisissante, où il dit, quand je pense à ce que j'étais à 20 ans, socialiste de pied dans le cap, et tout pur. Eh bien, Dieu sait si je vous aurais dit des choses sévères sur Peggy, mais maintenant il faut que je vous montre, pour finir, parce que c'est la vérité, la grandeur de ce personnage. Où est-elle la grandeur de Peggy? Elle est exactement ceci, que ce garçon, qui desséchait de réussir, qui avait le sentiment qu'on ne le reconnaissait pas, alors qu'il valait beaucoup, alors qu'il avait une sorte de génie, et c'est vrai, ce garçon, au milieu de sa vie, vers ses 35-36 ans, impatient de réussir, c'est un peu vendu. Il s'est approché des gens qu'il avait combattus, il s'est dirigé avec toutes sortes de sourires du côté de Barès, du côté des anti-Dreyfusards d'autrefois, alors qu'il était un Dreyfusard, mais il était absolument incapable, physiologiquement, viscéralement incapable, de se vendre tout à fait. Alors vous savez que dans l'année 1910, je vous l'ai dit, brusquement, au milieu de cette année 1910, où les nationalistes avaient essayé de le mettre sur leur pavois, c'est lui qui leur a dit, minute, hein, stop, attention. Je ne suis avec vous sur la défense de la patrie, mais il y a 2 choses que vous n'obtiendrez jamais de moi. Je ne renierai jamais la République et je ne renierai jamais ce que j'ai fait dans l'affaire Dreyfus. Il se coulait à ce moment-là, Peggy. Il ne se rendait pas compte qu'il était en train de se couler. Il faisait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais en 1906, au moment de sa grande tentation, il avait écrit cette phrase prophétique sur lui-même. Quand un pauvre homme a la probité dans la peau, il est perdu pour les grandeurs. Eh bien, c'est ça qui lui est arrivé à lui. Pensez donc qui va écrire en 1913 dans l'argent, les mots que voici. Il y a un argent propre, un argent noble, c'est celui de la paye, celui du salaire. Et il y a un argent sale, un argent déshonorant, c'est celui des gens du monde. Et un garçon qui écrit ça, il est en effet perdu pour l'Académie française. C'est un raté à la fin pays, un homme qui se tourmentait, se déchirait à l'idée « je suis un raté, j'ai pas réussi ». Mais figurez-vous qu'au moment de la guerre, quand il a été immobilisé comme tout le monde, quand il est parti, il est parti transfiguré. Madame Favre nous raconte la dernière visite qu'il lui a faite. Il était déjà dans son uniforme de lieutenant. Et il partait avec une espèce d'enthousiasme en disant « Cette fois, je vais faire quelque chose de sérieux. Cette fois, pour de bon, c'est plus du barbouillage littéraire. Et puis cette guerre-là, le pauvre, ça sera la dernière des guerres. » Il y allait, vous savez, plein d'une espèce de joie triste, profonde. Le Taconoux, c'est un nom trop long, alors on l'appelait Taco et quelquefois le vieux Taco. C'est un camarade de Peggy qui était mobilisé comme lui. Et c'est Taco qui nous a raconté ceci. Que le 3 août ou le 4 août, le jour où ils devaient partir ensemble avec leur régiment, ils étaient allés, le train ne partait que vers 14h, ils étaient allés manger dans un petit bistrot. Et là, il y avait toutes sortes de soldats qui mangeaient à côté d'eux. Et t'as quoi dit? Peggy, à un moment, m'a poussé le coude. Puis m'a dit, tu les vois, mes gars? Avec ça, on va refaire 93. Oui, il a bien dit 93. Un Peggy à la fin qui s'est reconquis, si vous voulez. Un Peggy au moment de mourir qui était redevenu pur.